VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdourahmane Dia en direct de Washington pour cette édition de 19h30 temps universel du jeudi 28 décembre 2017 au sommaire. George Weah, nouveau président du Liberia, il a largement remporté le second tour du scrutin.
C'est la fête partout, hein. C'est la fête partout dans tous les grands quartiers de Monrovia à l'intérieur du pays, surtout dans les provinces où le CDC a remporté plus de 80-90% des votes. C'est la fête un peu partout.
Cinq soldats maliens tués dans une explosion de mine dans le centre du pays. L'Italie va déployer près de 500 soldats au Niger, pays par lequel transitent de nombreux migrants vers l'Europe.
Nous sommes un pays entouré de foyers de tension, de foyers ou en tout cas de poches de terrorisme.
Interview du ministre de la Défense du Niger dans la partie magazine de cette édition. En Centrafrique, le gouvernement réagit vigoureusement aux menaces du chef rebelle Noureddine Adam. Vous pouvez également suivre le reportage de Freeman Sipila dans la partie magazine. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Tout d'abord, le journal. Au Liberia, la légende du foot et sénateur George Weah a remporté largement le second tour de la présidentielle de mardi. La Commission électorale nationale le crédite de plus de 60% des voix exprimées, tandis que son rival et vice-président sortant obtient 38% d'après les résultats provisoires. Le taux de participation s'élève à 56%. À Monrovia, les sympathisants de George Weah savourent déjà la victoire. Eric Manirakiza a joint à Monrovia un ancien journaliste de la radio nationale, Mohamed Kenneth.
Bien sûr, c'est la fête partout, hein. C'est la fête partout dans tous les grands quartiers de Monrovia à l'intérieur du pays, surtout dans les provinces où le CDC a remporté plus de 80-90% des votes. C'est la fête un peu partout.
Mais il a fallu attendre longtemps pour avoir ces résultats.
Oui, mais bien sûr. Comme je disais tantôt, la commission électorale devait annoncer ses résultats hier mercredi, mais ils ont préféré attendre. Bon, ils ont leurs raisons. De toute façon, les résultats ont été annoncés. Le président de la commission a dit que le résultat final, ce sera demain, avant 17h.
Dans quelles conditions la commission électorale a publié ses résultats?
Comme vous le savez, lors du premier tour, il y a eu des disputes. Il y a le parti de Michel Blonskin, le Liberté Parti, qui a même porté plainte à la Cour suprême pour dire non, il faut revoir les procès-verbaux, il y a eu des fraudes, ainsi de suite. Donc ça a pris au moins 7 semaines. Mais cette fois-ci, la commission électorale a nettoyé la liste électorale grâce à l'aide de la CEDEAO. Ils ont beaucoup travaillé avec la commission électorale pour essayer de nettoyer tout ce qui n'était pas très beau. Donc ils ont vraiment travaillé.
Pour vous, c'est une victoire incontestable?
Bien sûr, je pense que oui.
C'était Mohamed Kenneth, ancien journaliste de la radio nationale ILBC au Liberia. Nouvelle manifestation de l'opposition au Togo. Les militants ont été dispersés à coups de grenades lacrymogènes, mais l'opposition maintient son programme pour demain et samedi afin d'accentuer la pression sur le régime. Reportage à Lomé, Kay Lawson.
La manifestation de l'opposition de ce jeudi n'a pas pu chuter au carrefour commercial Décon comme c'était le cas le mercredi. À peine les manifestants sont arrivés à ce lieu et que l'un des responsables a pris la parole pour indiquer que rien ne leur interdit de tenir leur meeting à ce carrefour stratégique, que les premières détonations ont commencé par se faire entendre. Une pluie de gaz lacrymogène tombe sur la foule. C'est la débandade. Notons que les premiers responsables, notamment Jean-Pierre Fabre ou Brigitte Adjamagbo Kafui-Johnson, n'étaient pas présent lors des incidents. Selon une source proche de la coalition, ils auraient pris la route pour Accra à l'invitation du président ghanéen. Selon le programme préétabli par la coalition, les manifestations se poursuivent vendredi et samedi. Kay Lawson, depuis le carrefour des camps à Lomé, pour VOA Afrique.
5 morts et 3 blessés, c'est le bilan d'une attaque contre des militaires maliens à la frontière Mali-Burkina Faso. Avant cette attaque, les forces armées maliennes avaient repoussé une autre dans la région de Mopti. Le point avec Kassim Traoré à Abidjan.
Bamako. Boulkessi est une petite localité dans le cercle de Douanza, région de Mopti. La zone fait frontière avec le Burkina Faso. La position des soldats maliens qui se trouvent dans ce village a toujours fait objet d'attaque. Cette fois-ci, les militaires maliens n'ont pas été surpris par des tirs ennemis, mais c'est leur véhicule de patrouille qui a sauté sur une mine. Trois soldats maliens sont morts sur le champ. Deux autres ont succombé à leurs blessures quelques heures après l'attaque, ce qui fait un bilan de 5 morts et 3 blessés. Cette zone située vers la frontière du Burkina Faso a fait l'objet de plusieurs attaques depuis 3 à 6 mois. Avant Boulkessi, tôt le matin du jeudi 28 décembre 2017, des assaillants sur des motos ont attaqué l'agence Ecobank du cercle de Koro, toujours dans la région de Mopti. Avec la riposte des FAMA, ils n'ont pu emporter quelque chose. Suite à ces attaques, les militaires maliens ont commencé à renforcer leurs différentes positions avancées dans les régions de Mopti et Tombouctou, car des mouvements de groupes armés non identifiés sont en provenance de Burkina Faso, non loin de Boulkessi. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Un militaire congolais, 6 miliciens Maïmaï ont été tués dans l'attaque d'une localité de l'est de la RDC à la frontière avec l'Ouganda. Des combats entre les forces armées de la RDC et des miliciens ont débuté tout ce matin selon des témoignages d'habitants de Kassindi, localité du territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu. Le premier ministre centrafricain Mathieu Simplice Sarandi condamne les propos du chef de guerre Noureddine Adam qui avait traité le président Faustin Archange Touadéra de criminel et menacé de marcher sur Bangui. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Le président déchu du Zimbabwe, Robert Mugabe, va bénéficier d'un logement, d'une flotte de voitures et de voyages en avion privé, conformément à un nouveau plan de retraite financé par le gouvernement et destiné aux anciens dirigeants, selon des révélations de la presse officielle. M. Mugabe disposera également d'une équipe d'au moins 20 salariés, dont 6 gardes du corps, tous rémunérés sur les deniers publics. Le mois dernier, un média local indépendant affirmait que M. Mugabe avait été gratifié d'une prime de départ de 10 millions de dollars, un argument de plus pour le convaincre de démissionner, mais le gouvernement avait démenti cette information. Et puis une famille zimbabwéenne est bloquée depuis 2 mois à l'aéroport de Bangkok, une situation qui a ému de nombreux Thaïlandais en cette période de fête de fin d'année. Les 4 adultes et 4 enfants âgés de 2 à 11 ans tentent depuis la fin octobre de quitter la Thaïlande, mais ne disposent d'aucun visa pour se rendre dans un autre pays. Ils ne veulent pas rentrer au Zimbabwe.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 41 personnes ont été tuées, 84 blessées selon une source gouvernementale dans un attentat suicide revendiqué par le groupe djihadiste État islamique contre un centre culturel chiite à Kaboul où les attaques se multiplient. Salwa Jafari.
Scène de panique générale à l'hôpital Istiqbal de Kaboul. Des dizaines de victimes, presque tous des Haraza, l'unique ethnie chiite d'Afghanistan, pleuraient leurs proches. D'autres hurlaient contre le gouvernement, incapable, selon eux, de les protéger.
Cet infidèle devrait quitter le pouvoir et laisser un autre chien diriger le pays. Nous ne voulons pas de ce gardien infidèle. Nous ne le voulons pas.
Le centre culturel visé par l'attaque reçoit un soutien de l'Iran et est l'un des principaux centres chiites à Kaboul. L'attentat dans lequel les talibans ont rapidement proclamé n'être pour rien a aussi frappé l'Afghan Voice Agency, un média anti-État islamique dont les locaux sont situés dans le même immeuble. Cette explosion a été suivie de 2 autres de moindre importance qui n'ont pas fait de victimes. Cet attentat est le plus sanglant depuis celui ayant visé une mosquée chiite en octobre qui avait fait 56 morts et 55 blessés revendiqués par l'État islamique.
Les missions consulaires américaines en Turquie vont reprendre en totalité la délivrance de visas après une suspension provoquée par l'arrestation d'un employé consulaire. Vladimir Poutine a ordonné de liquider sur place les auteurs d'attentats mettant en danger les forces de l'ordre après un acte terroriste à Saint-Pétersbourg. L'explosion d'une bombe artisanale dans un supermarché de la deuxième ville de Russie a fait 14 blessés hier soir. Les évacuations de civils gravement malades d'une région rebelle de Syrie assiégée par le régime se poursuivent au compte-gouttes. 12 malades, en majorité des enfants, ont quitté la Ghouta orientale, région rebelle proche de Damas, avec des membres de leur famille pour être transportés vers des hôpitaux de Damas. Un responsable de l'ONU s'inquiète de l'utilisation d'enfants comme monnaie d'échange. En Irak, des centaines de personnes ont manifesté dans le nord-est du pays ainsi que dans d'autres villes contre la hausse des prix, le chômage et le gouvernement du président Rouhani. La manifestation était illégale, mais la police s'est montrée tolérante, a déclaré le gouverneur de Mashhad, Mohamed Rahim Nourizian, cité par l'agence de presse ISNA. Il a toutefois précisé qu'un certain nombre de personnes avaient été arrêtées. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique sur le continent, c'est la Minute Éco avec Eric Manelekiza.
Le président angolais João Lourenço a autorisé le Crédit Agricole à injecter 500 millions de dollars dans les investissements publics en Angola. La trop forte dépendance au pétrole contribue à la dégradation de la situation socio-économique du pays depuis quelques années. Luanda souhaite donc diversifier son économie pour en améliorer les secteurs vitaux. L'Angola est l'un des pays les plus inégalitaires en Afrique et veut passer à l'horizon 2020 dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires. L'Éthiopie reçoit de la Banque mondiale 470 millions de dollars pour deux projets. D'une part, un don de 300 millions de dollars pour renforcer l'accès et la qualité de l'éducation. De l'autre, un prêt de 170 millions de dollars pour augmenter la productivité dans l'élevage et la pêche. Ceci permettra d'accroître aussi la capacité de commercialisation des producteurs et des transformateurs et à renforcer les systèmes de prestation de services afin de répondre efficacement aux situations d'urgence. Enfin, le FMI octroie à l'Égypte plus de 2 milliards de dollars pour soutenir son programme de réforme économique. Ce décaissement représente la troisième tranche d'un prêt de plus de 6 milliards de dollars. Le programme mis en œuvre depuis 2016 vise à réformer le cadre réglementaire, renforcer la concurrence, améliorer l'accès au financement et à la terre. Il s'agit aussi, pour les autorités égyptiennes, de renforcer la gouvernance et la transparence des entreprises publiques, lutter contre la corruption et mieux intégrer les femmes et les jeunes sur le marché du travail.
Alors, un nouveau tour chez nous dans ce studio avec vous, Yacouba Ouedraogo, pour faire le point sur les sports. Bonsoir.
Bonsoir, Abdourahman.
De nouveaux actes de racisme en Belgique au cours d'un match de première division.
La victime se nomme Uche Agbo, joueur nigérien du Standard de Liège, qui a essuyé des cris de singe après avoir écopé d'un carton rouge. Uche a contesté l'arbitrage pendant quelques instants avant de sortir du terrain. Une sortie douloureuse puisqu'elle est accompagnée de jets de gobelets de bière, insultes, doigts d'honneur et cris de singe de la part des supporters du camp adverse devant lesquels il devait passer avant de rejoindre les vestiaires.
Montella dépose ses valises au FC Séville.
L'entraîneur italien Vincenzo Montella, 43 ans, limogé il y a 3 mois par l'AC Milan et le FC Séville ont trouvé un accord de principe pour l'arrivée du technicien en remplacement de l'argentin Eduardo Berizzo écarté la semaine dernière. Avec Séville, contrairement à l'AC Milan, Montella pourra jouer la Ligue des Champions où les Andalous affrontent Manchester United en 8e de finale.
L'équipe nationale de l'Ouganda a un nouvel entraîneur.
Et il s'appelle Sébastien Desabre. Il a été nommé sélectionneur des Crânes pour une durée de 2 ans, en remplacement du Serbe Milutin Radojevic, démissionnaire en juillet dernier, âgé de 41 ans. Desabre entraînait précédemment le club égyptien d'Ismaïlia. Pour ses débuts, le technicien français dirigera l'Ouganda lors du 5e championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2018, une compétition réservée aux joueurs africains évoluant sur le continent et qui débute au Maroc le 12 janvier.
Nouvel entraîneur également pour la Libye à moins d'un mois du CHAN 2018.
Les Libyens ont fait confiance à Omar Al-Marimi pour conduire les chevaliers de la Méditerranée au Maroc. La signature du contrat est intervenue alors que l'équipe a déjà entamé sa préparation. Dans le royaume chérifien, les chevaliers de la Méditerranée, vainqueurs de la compétition en 2014, sont logés dans le groupe C avec le Nigeria, le Rwanda et la Guinée équatoriale.
Merci beaucoup, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Vive réaction de Bangui aux propos de Noureddine Adam, chef du FPRC, sur les médias internationaux menaçant de marcher de nouveau sur la capitale, comme en 2013. Au cours d'une interpellation hier au Parlement, le chef du gouvernement a dénoncé des propos irresponsables. Sur place à Bangui, Freeman Sipila.
Les réactions n'ont pas tardé après la publication d'une interview de Noureddine Adam dans les médias internationaux. Le chef de guerre du FPRC, Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique, aile dure de l'ex-rébellion Silika, a menacé de marcher de nouveau sur Bangui, la capitale, comme en 2013. L'homme retranché à Birao, dans le nord-est, a par ailleurs qualifié le président Faustin Archange Touadéra de criminel. Propos vertement critiqués par le Premier ministre Simplice Mathieu Sarandi lors d'une interpellation à l'Assemblée nationale.
Le chef d'État a été élu par le peuple. La politique du président Touadéra n'est pas de faire la guerre. Il n'est pas un va-t-en-guerre. Il a tendu la main à tous ceux des nôtres qui ont pris des armes. Voilà que nous allons apprendre, à notre grande surprise, que Noureddine Adam sort de l'ombre pour commencer maintenant à mener une campagne de dénigrement vis-à-vis du chef de l'État en le traitant d'assassin, en le traitant de criminel. Qui est plus criminel que qui ? Qui est plus assassin que qui ? Cela ne va pas changer la détermination du gouvernement centrafricain à pouvoir mettre en pratique ce qui a été défini par le chef de l'État.
Pour l'opposition politique, la réaction du chef du gouvernement ne rassure pas les centrafricains. André Nalké Dorogo, député de l'URCA.
La réaction de M. Noureddine Adam est non seulement un défi à l'existence de notre pays, mais aussi un défi à l'autorité de l'État, donc à la République. Nous aurions souhaité que, face à ces propos, que le gouvernement de la République puisse réserver une réponse appropriée. Malheureusement, la réponse du Premier ministre, pour moi, est non seulement mitigée, mais crée le désarroi dans la population.
La MINUSCA, la mission de l'ONU pour le maintien de la paix, se veut aussi ferme. Au cours d'une conférence de presse conjointe avec le gouvernement, elle assure prendre au sérieux toute menace d'où qu'elle vienne. Ikavi Betanou, porte-parole intérimaire.
Qui dit menace de descendre sur la capitale ou ailleurs dans le pays, dit menace pour la protection des civils. On prend au sérieux toute menace. C'est par voie de presse que nous avons appris cette menace-là. Donc apparemment, la population la prend au sérieux. Donc comme nous sommes là pour protéger la population, quand la population elle prend quelque chose au sérieux, nous la prenons au sérieux également.
Dans la capitale, l'exaspération est grande. Nombreux sont ceux qui appellent à une action d'urgence contre le groupe dirigé par Noureddine Adam. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Le chef du gouvernement italien, Paolo Gentiloni, a annoncé le déploiement de 470 militaires au Niger à la demande de Niamey afin de renforcer le contrôle du territoire de ce pays par lequel transitent de nombreux migrants. Pour des précisions, Blanche Sanou a joint à Niamey Kalla Moutari, ministre de la Défense nationale du Niger.
Il y a une coopération qui est née, une coopération qui s'approfondit et une coopération qui est très prometteuse au vu de ce qui est en en train de se passer actuellement au stade actuel de cette coopération. Nous avons accueilli chez nous une équipe de 10 personnes, de 10 experts italiens qui sont venus travailler avec nos forces armées nationales pour évaluer les besoins en matière de sécurité et de défense de notre pays en vue d'un éventuel appui du gouvernement italien au gouvernement du Niger dans notre lutte commune contre le terrorisme et le trafic de tout genre.
Quelles sont les attentes du Niger par rapport à cette coopération?
Nous sommes un pays à revenus assez faibles. Nous sommes un pays qui aurait souhaité investir ses ressources dans le développement de l'économie nationale. Si, sur le plan international, sur le plan régional, sur le plan africain, nous avons des pays frères disposés à nous aider, à nous appuyer, qu'il s'agisse de la formation de nos soldats, qu'il s'agisse de l'appui à l'information et à un système de renseignement, qu'il s'agisse d'équipement ou de construction d'infrastructures. Si nous avons un pays frère capable de nous aider dans l'un ou l'autre aspect de ce que je viens d'évoquer, c'est toujours un plus pour nous et c'est décisif pour nous dans cette lutte commune que nous engageons contre le terrorisme et le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue, le trafic des armes.
Quel impact économique et social sur la population locale?
La vocation de la politique en matière de défense et de sécurité, ce n'est pas le développement, mais c'est permettre, c'est favoriser, c'est créer les conditions du développement. Nous voulons, dans le cadre de cette coopération, sécuriser notre territoire. Nous sommes un pays très vaste. Nous sommes un pays à des très grandes frontières avec des pays qui ne sont pas forcément un pays. Nous sommes un pays qui fait frontière avec le Tchad. Nous sommes un pays qui fait frontière avec la Libye. Nous sommes un pays qui fait frontière avec l'Algérie. Désormais, le Mali, le Burkina, qui n'est pas en paix. Donc, nous sommes un pays entouré de foyers de tension, de foyers ou en tout cas de poches de terrorisme. Concevoir le développement dans un pays qui est aussi mal entouré, c'est une gageure lorsque on ne met pas ce qu'il faut à assurer la sécurité. Voilà ce que nous attendons de cette coopération. Assurer la stabilité de notre pays, continuer d'assurer la stabilité de notre pays, la paix et la sécurité de notre pays, avoir la maîtrise de notre frontière afin que le peuple vague tranquillement à ses occupations.
C'était Kala Moutari, ministre de la Défense nationale du Niger.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Burkina Faso, les travaux de l'avant-projet de la nouvelle constitution promise par le président Roch Kaboré lors de sa campagne électorale ont été bouclés. Si le projet est adopté, il mettra fin à la constitution de la 4e République actuellement en vigueur. Le nouveau texte prévoit des changements majeurs avec, entre autres, un verrouillage du nombre de mandats présidentiels qui seront donc limités à 2. Yacouba Ouédraogo a joint Maître Ambroise Farama, ancien membre de la Commission constitutionnelle.
La limitation du mandat présidentiel était déjà consacrée. C'est que ce nouvel avant-projet consacre, c'est pratiquement l'impossibilité de modifier cette disposition-là.
Le rapporteur général de la Commission constitutionnelle, le professeur Luc Maris Ibriga, disait que le président ne peut plus soumettre au peuple une question par voie de référendum pour ensuite réviser la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là?
Ça veut dire que le président d'autorité ne peut pas décider d'aller à un référendum pour modifier la question de la législation présidentielle. Parce que d'abord, il va falloir au préalable modifier la Constitution avant de pouvoir modifier la disposition.
Il est également prévu qu'en cas de haute trahison, le président peut être destitué par une procédure devant la Cour constitutionnelle. Ne faut-il pas craindre un dictat du pouvoir judiciaire?
Non, pas du tout. Le pouvoir judiciaire, effectivement, il est reconnu la possibilité donc de pouvoir destituer. Mais cette procédure de destitution a un mécanisme de contrôle. Vous avez également l'Assemblée, donc il y a également un contrôle politique qui est fait. De telle sorte que pour qu'un président puisse être destitué, il faut d'abord qu'il ait commis des infractions. Mais il faut également que des points de vue politiques soient lâchés.
On parle justement de régime semi-présidentiel dans la l'avant-projet de constitution. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie que vous aviez donc un régime où le président effectivement a des pouvoirs, mais les pouvoirs du président sont limités également par l'action du Parlement. Et la conséquence est que le chef du gouvernement est issu de la majorité parlementaire. C'est lui qui finalement détermine donc la conduite de la nation. De telle sorte que tous les pouvoirs qui ne sont pas entre les mains donc du président, mais les pouvoirs sont partagés entre le président et l'Assemblée.
Ce qu'on peut craindre aussi, c'est que si le président est élu directement par le peuple et n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale et donc un premier ministre qui est issu d'un parti différent, le président fait des promesses pendant sa campagne électorale. Comment est-ce qu'il va pouvoir justifier tout ce qu'il a promis s'il n'a pas la main libre pour définir sa politique?
Ah oui, ça c'est vrai, mais c'est là aussi la particularité de la nature de ce régime. Il a des pouvoirs également, donc des pouvoirs éventuellement d'issue de l'Assemblée et de repartir à une nouvelle élection législative.
C'était Maître Ambroise Farama, ancien membre de la Commission constitutionnelle au Burkina Faso.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Hein. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Sims Loumami, à la console Bill Barber, présentation Abdelrahman Diar. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le manque d'énergie fiable et peu coûteuse constitue l'un des obstacles majeurs à la croissance et au développement en Afrique subsaharienne. Près de 70% des habitants de cette région n'ont pas accès à l'électricité. Ce qui les force à dépenser une importante partie de leurs revenus sur des formes coûteuses et malsaines d'énergie, comme le gazole pour les groupes électrogènes et le pétrole pour les lampes. Mais s'il y a une chose dont l'Afrique dispose en abondance, c'est le soleil. Et cela est très important, car pour les personnes les plus pauvres du monde, le soleil fait toute la différence. Il y a plus d'un an, Power Africa, une initiative du gouvernement des États-Unis, coordonnée par l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, et des partenaires comme le Département du développement international du Royaume-Uni, la Fondation Shell et la Banque africaine de développement, ont lancé le partenariat Scaling of Grids, Energy Grand Challenge for Development, avec des systèmes prépayés d'énergie solaire. L'objectif est de fournir une énergie propre et abordable à 20 millions de ménages subsahariens non connectés au réseau électrique. À ce jour, l'initiative a réalisé plus de 40 investissements dans des start-up pour pouvoir assurer quelques 4,8 millions de nouvelles connexions électriques. L'une des raisons du succès de ces compagnies ayant reçu des subventions du Challenge est le fait que le coût de la technologie solaire diminue rapidement, de sorte qu'elle est accessible aux personnes vivant loin des réseaux électriques traditionnels. Et grâce au nouveau système de paiement mobile et à l'usage, elles peuvent acheter l'équipement solaire dont elles ont besoin et payer un versement quotidien à partir de leur téléphone, pour aussi peu que 15 cents par jour. Grâce à ces innovations technologiques et financières, beaucoup de gens reçoivent l'électricité pour la première fois. Dans ces communautés nouvellement électrifiées, les entreprises peuvent prospérer, les cliniques peuvent stocker leurs vaccins en toute sécurité et les étudiants peuvent étudier longtemps après la tombée de la nuit. L'accès à une électricité propre et fiable peut permettre à des communautés entières d'échapper au cycle de la pauvreté extrême. Le partenariat Scaling Off-Grid Energy and Development, la technologie solaire et les entreprises qui apportent la lumière et l'électricité aux maisons et aux entreprises hors réseau, révolutionne la vie quotidienne des millions de personnes en Afrique subsaharienne.